Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, émission hebdomadaire de cinéma. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Et aujourd'hui, eh bien, petit sommaire, mais avec quand même pas mal de choses. De quoi tu vas nous parler ?
Eh bien, d'un film d'anticipation, The Lobster, du grec Yorgos Lanthimos. Et puis, j'évoquerai donc en fin d'émission le film noir Dementia.
Dont tu devais parler la semaine dernière, mais la semaine dernière, nous avions beaucoup à dire. Et puis moi, je vous parlerai de Dope. C'est une comédie américaine, mais indépendante. Et puis, eh bien, nous ferons un gros focus sur le film de Cairon. Cairon, il faisait partie de l'équipe de Bref, et il est devenu un réalisateur. Lui aussi, il fait une comédie. C'est sur l'histoire de ses parents qui ont quitté l'Iran. Ça s'appelle « Nous trois ou rien ». Et ce qui est plutôt bien, c'est que il est venu au Festival Cinémed la semaine dernière, et que Marine, qui est absente pour le moment, on lui souhaite un prompt rétablissement, Marine a pu le rencontrer. Donc on l'écoutera parler de son film, et puis ce sera l'occasion aussi de jouer un blind test sonore où il faudra découvrir des films, alors soit qui se passent en Iran, soit qui parlent de l'Iran, mais la plupart du temps ce sont des films qui ont été faits en dehors de l'Iran, parce que j'avais besoin de version française pour vous faire écouter et deviner. C'est Cinérama qui débute.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça ? Une blague ou quoi ?
$700,000 de budget, c'est peu pour un film américain, même produit par Forest Whitaker et Pharrell Williams. Les financeurs n'ont pas accouru. Coolitude et Blackitude traversent Dope, le film de Rick Famuyiwa. J'aurais dû m'entraîner. Famuyiwa. Bon, voilà, je le dirai qu'une fois. Donc, c'est une comédie plutôt bien sentie, cherchant à détourner les clichés sur les blacks sans en faire un film à message. Malcolm est noir, d'origine nigériane. Il habite un quartier chaud de Los Angeles. Entre l'école et la rue, il a quelques occasions d'être embêté, on va le dire comme ça. D'autant que Malcolm et ses deux amis, un latino à 13% noir, dit-il, et une lesbienne maquillée en homme, sont des geeks. Leur truc, c'est la culture numérique et puis le hip-hop des années 90. Alors déjà, premier cliché tordu, le geek n'est pas un informaticien que le cinéma se plaît souvent à grimer en tête à claque à lunettes vaguement associables. Avec Malcolm et ses amis, on a affaire à la génération qui a exclusivement grandi avec Internet, option Californie, donc cool. Ils sont inspirés par le hip-hop des années 90 et leurs vêtements sont hérités de l'époque. Mais de geek, ils vont passer à super cool, entraînant dans une soirée organisée par un dealer. Ainsi, le type qui nous raconte au début du film qu'il a toujours su éviter les dealers du quartier se retrouve à en côtoyer un. Une présence qui aura des conséquences sur la vie de Malcolm, lui qui n'a qu'un seul projet, en dehors de sauver ses fesses, c'est rejoindre Harvard, la prestigieuse université. Alors Dope est avant tout une comédie servie par de jeunes comédiens et nourrie par une bande musicale omniprésente, préparée en partie par Pharrell Williams et parsemée de standards hip-hop des années 90 qui accompagnent le propos. Cette bande-son s'adapte parfaitement aux couleurs pétillantes de Dope. Le film est comme un petit bonbon multicolore qui s'inspire davantage des codes de la vidéo, du clip et d'Internet que du cinéma. Ainsi, on voit des écrans séparés en deux ou trois images, des images arrêtées, des retours en arrière, autant de tics de mise en scène dynamisant un récit à la première personne, avec Malcolm nous livrant ses incertitudes et ses interrogations sur la vie d'un geek noir dans un quartier défavorisé de Los Angeles. Alors jamais on ne s'écarte de cette idée que le but de Malcolm est bien d'aller à Harvard, mais qu'il en faut peu pour qu'il manque son but entre tentation de l'argent facile et ivresse sexuelle. Alors si vous avez une culture geek, évidemment, il y a quelques moments savoureux avec une campagne de communication virale pour vendre de la drogue sur Internet, le financement de l'activité de drogue donc par le Bitcoin, la monnaie alternative, et puis des courses-poursuites d'individus par les mouchards inclus dans l'iPhone. Voilà, c'est autant de petites astuces comme ça, montrées dans ce film. Avec un minimum de culture Internet, vous passez donc un bon moment parce que les dialogues et les situations font mouche. Et même sans culture Internet, Dope reste l'histoire d'un jeune homme des quartiers pauvres qui ne veut pas coller à l'image qu'on a de lui. Alors si on résumait Dope, il s'amuse du déterminisme social et de la question noire aux États-Unis. Et puis comme il est traversé par beaucoup de musique et beaucoup de hip-hop des années 90, et que j'apprécie plutôt le hip-hop des années 90, en voici un condensé.
Narcos, they posted, ready to put you in coma. A junkie walking through the twilight. I'm on my way home.
Alors, il y avait quelques intrus, hein. Il n'y avait pas que du hip-hop, puisqu'on a aussi écouté Gilles Scott-Heron. Et puis là, le dernier morceau, c'est un des morceaux que les jeunes jouent, parce qu'ils font aussi ce qu'ils appellent du punk rock. Voilà, c'est comme ça qu'ils définissent le punk rock. Voilà, c'est Dope, et ça sort le 4 novembre sur vos écrans.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors, dans un futur incertain, hein, le système réprimande les gens seuls. Alors, toute personne célibataire est arrêtée et envoyée à l'hôtel, avec un H majuscule, hein, sorte de lieu de redressement où cette personne a 45 jours pour trouver l'âme sœur. Dans ce contexte absurde, un homme finit par s'enfuir et rejoindre un groupe de résistants vivant dans la forêt, les solitaires, qui ont érigé des règles tout aussi figées. Alors, Canine décrivait un processus de dressage d'une famille par la figure paternelle éduquant ses enfants comme des chiens. Dans Alps, une mystérieuse organisation se fixait comme mission d'aider les gens à accepter la disparition des proches. Pour ce faire, les employés remplaçaient les personnes décédées pour quelques semaines afin d'accepter le deuil. Alors, le grec Yorgos Lanthimos poursuit avec The Lobster sa réflexion distanciée sur l'espace social, le rapport à la norme et la logique perverse de la culture prenant le dessus sur la nature. Alors, cette fable dystopique, hein, est une description insolite d'un monde effrayant, régi par des codes et des règles frôlant le ridicule et l'impensable. Alors, si au bout de 45 jours, les célibataires n'ont pas trouvé leur moitié, ils sont transformés en un animal de leur choix. Souvent, c'est le chien qui est choisi. D'où le titre d'ailleurs du film, hein, c'est le homard, le choix du personnage principal en cas d'échec. Le hic, c'est que l'union est acceptée selon une norme coercitive énonçant que le couple doit impérativement présenter des points communs immédiatement repérables. Alors, exempté par l'absurde, un garçon est attiré par une fille qui saigne du nez. Pour être avec elle, il va régulièrement se taper la tête, le visage, hein, contre les murs pour se faire saigner. Alors, l'idée de mettre les couples dans des cases ou des cages prend ici une signification quand même cauchemardesque. Alors, on écoute là un extrait d'un morceau de Nick Cave, Where the Wild Rose Grow, que Colin Farrell chante à plusieurs reprises pour échapper au diktat de son univers. Hein. Alors, si on m'avait dit un jour qu'une chanson de Nick Cave pouvait être synonyme de bien-être et de bonheur pour un personnage, c'est quand même assez extraordinaire.
First day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
Profondément pessimiste et radical, Lanthimos décortique une société aliénante dictée par la logique de l'arbitraire qui a perdu toute cohérence à force d'instaurer des lois en contradiction avec la nature profonde de l'homme. La première partie du film est passionnante, terrifiante et ludique, quelque part entre le rhinocéros de Ionesco et certaines œuvres de Buñuel, avec en plus une bonne dose de délire kafkaïen. Alors, il est nécessaire néanmoins d'accepter d'emblée un postulat pour le moins incongru et d'un anticonformisme réjouissant, car derrière l'argument futuriste, The Lobster est moins un film d'anticipation fustigeant un totalitarisme en devenir qu'un regard lucide et désespéré sur notre société contemporaine, sonnée par des interdits et contraintes de plus en plus vides de sens. Alors, cette métaphore d'un monde qui a perdu toute orientation, qui nous éloigne chaque jour de notre être, déçoit dans une deuxième partie plus convenue, lorsque le héros, d'ailleurs formidablement interprété par un Colin Farrell méconnaissable, rejoint le groupe de résistants. Alors évidemment, ces pseudo-contestataires ont fixé des lois tout aussi aberrantes, puisqu'il est interdit de s'embrasser et de s'accoupler sous peine de sanctions physiques. Lanthimos démonte par une dérision nihiliste le degré d'infantilité des mouvements opposants qui reproduisent des schémas similaires de ce qu'ils combattent. Alors, le film s'empêtre alors un peu dans un schéma, on va dire, didactique, une réflexion un peu simpliste renvoyant dos à dos pouvoir en place et alternatives possibles. Alors, de manière simpliste, le grec pense que le mieux dans ce monde, dénué d'empathie, c'est de perdre la vue afin de retrouver certains sens oubliés et sentir un début de frisson d'amour. Alors, cet optimisme un peu absent de ses précédents longs-métrages, semble un peu incongru, mais coproduction oblige, s'impose comme une concession logique d'un film tout de même atypique. Alors, la mise en scène, composée de plans fixes, le plus souvent magnifiquement cadrés, offre une articulation intéressante entre le théâtre, diction particulière des comédiens, et la danse, beaucoup de gestuels, dispositifs formels surprenants et souvent hypnotiques. Dommage que certaines affaîtriques, comme ces ralentis inutiles ou cette voix off un peu redondante, nuisent à la rigueur du film. Alors, The Lobster frôle parfois l'exercice de style, un peu vain et répétitif, et s'enferme dans des concepts un peu trop voyants, tant sur le plan visuel et narratif, mais force est de reconnaître que c'est quand même un des films les plus intéressants du moment qui sort sur les écrans. Hein.
Merci Manu, et c'est plutôt bien pour un bon film avec Colin Farrell. Donc.
Oh, il n'a pas joué quand dans des mauvais
non,
films.
Non, mais dernièrement, c'était pas, on ne l'a pas forcément remarqué. C'est maintenant que nous allons écouter Chiron.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Chiron, vous le connaissez peut-être, c'est son personnage, eh bien, c'est celui de Bref. Alors, on va l'écouter.
Bref, lui, c'est Chiron. Quand je suis pas bien, il me conseille de baiser des meufs. Quand je suis bien, il me conseille de baiser des meufs. Et quand je vais baiser une meuf, il me conseille de baiser des meufs. Quand je vais envoyer un texto à une meuf, il me dit d'attendre 3 jours pour faire le mec détaché. Parce que d'après lui,
plus tu seras détaché, plus elle te laissera l'attaché.
Bref, en fait, Chiron, c'est un mec dans ma tête.
Voilà, donc c'est un obsédé sexuel, hein, en fait. Et donc, il est passé du côté de la réalisation, puisque Bref s'est arrêté, puis c'était aussi un homme de one-man show, donc plutôt bienvenu hein, pour une comédie. Et donc, il sort ce 4 novembre, Nous trois ou rien, qui raconte l'histoire de ses parents, et donc aussi un peu son histoire. Ses parents sont iraniens, son père qui s'oppose au Shah d'Iran, qui fait de la prison, en sort et part en exil avec femme et enfant. Donc le petit Chiron, et il part où ? Eh bien en France, évidemment. Donc c'est un destin hors du commun. Alors s'agissant d'une comédie, le film est nourri de situations comiques et de bons mots. Chiron applique une recette télévisuelle en y ajoutant parcimonieusement des séquences émotions. Le principal atout du film, c'est le rire qu'il déclenche quand même. Et le défaut, eh bien c'est la réalité qu'il dépeint en restant dans l'évocation de l'Iran, pays autoritaire avec le Shah qui devient franchement liberticide, avec l'ayatollah Khomeini à la banlieue française. Voilà, tout ça est un peu vite passé. Mais Chiron insiste bien sur le fait qu'il a voulu raconter l'histoire de ses parents. On l'écoute, c'est Marine qui l'a rencontré donc au Cinémed avec un enregistreur légèrement défectueux. C'est ainsi.
Pour l'écrire, j'ai beaucoup interviewé mes parents parce que je voulais partir que de faits vrais.
Je suis né en Iran, un pays de 33 millions d'habitants. Comment je sais tout ça? Pas grâce à lui en tout cas.
Monsieur, c'est où la Belgique?
C'est entre là et là.
Je m'appelle Ibat. Et voici mon histoire.
En tant qu'auteur, il y a eu quelque chose effectivement d'assez émotif. Et une fois que j'ai commencé à jouer mon père, je ne jouais plus mon père, je jouais le personnage d'Ibat Tabib, créé par un auteur. Donc, il se trouve être moi. C'est un peu...
Mon pays est magnifique. Et le roi concerné par son peuple.
On a faim !
Je m'en fous.
On a soif !
Je m'en fous.
Moi, j'ai décidé de pas m'en foutre.
La première intention, c'est quand je suis petit et je me rends compte, quand je parle avec des copains d'école, que... Ah ouais, toi ton père il a pas fait de prison. Ah ouais, d'accord. Mais t'as un oncle qui a un œil en moins quand même, non? T'as pas ça? Et je me rends compte qu'il y a une vraie différence avec les autres. Et je me dis, je me rends compte très tôt que j'ai une histoire, enfin moi non, mais que mes parents ont une histoire particulière.
C'est pas un jeu, Ibat, ils vont me tuer. Mais qu'est-ce qu'il veut?
Ce qui vous fait le plus peur.
Un requin?
Une démocratie.
Et c'est là que j'ai rencontré Ferishté.
Elle est parfaite. Je vais l'épouser.
Alors, comme ça, tu veux épouser ma fille?
C'est quoi cet accent? T'essaies de lui faire peur?
Non, ça va, j'essaie de juste...
Quand on fait rire quelqu'un, on le désarme, on lui donne du bonheur, et du coup, il est plus apte à écouter le message. Ensuite, les gens qui ont vraiment souffert, qui ont vraiment vécu des drames, ces gens-là sont les premiers à en rire. Pas comme nous, par plaisir ou par envie, parce qu'on aime la joie, mais par nécessité. Par survie, par besoin, parce que s'ils rigolent pas des choses dramatiques qui leur arrivent, bah ils sombrent tout simplement. Et ensuite parce que mes parents sont vraiment des gens joyeux. Ils m'ont élevé là-dedans et c'est les premiers à faire des vannes. Je vous raconte une anecdote. Mon père vient sur le tournage le jour des scènes de torture. Et donc il me cherche, et il vient pas sur le tournage pour voir le tournage. Il vient pour me donner un papier, une connerie, vraiment un truc de père-fils. Et il me cherche et il me trouve pas. Et à un moment donné, il vient, il dit, qu'est-ce que tu fais? Bah, je dis, bah, je me faisais maquiller. Il fallait 2h30 pour mettre la barbe, les blessures, etc., le sang. Et... Et il me dit, mais 2h30 pour faire ça? Moi, il me le faisait en 3 minutes.
Le chef du parti pense que ça devient trop dangereux pour nous ici.
On part quand?
Tu partirais sans moi.
T'as raison. C'est nous trois ou rien.
C'est-à-dire que, vraiment, faut que vous mettez dans leur tête, pour eux, c'est pas dingue ce qu'ils ont fait. Mais c'est important que vous ayez cette donnée-là. C'est juste, c'est une vie, comme il y a plein de gens qui ont plein de vies, et ben eux, ils ont une vie. Et je décide de raconter leur vie, et ils sont, quand ils viennent me voir sur le tournage, au moment de la scène de torture, ils viennent pas parce que c'est la scène de torture, ou jamais ils viennent dire aux comédiens « Oui, par contre, non, c'est pas comme ça que ça se faisait, ce serait bien que tu l'ajoutes. » Mais jamais ils se seraient permis. Ils sont dans un petit coin, ils regardent « Oh, c'est bien, c'est super. Par contre, ce papier-là, il faut que tu l'envoies par rapport à la banque, donc il faut que tu t'en occupes. Voilà, nous, allez, on va au marché, etc. » Et ils sont venus nous voir 3 fois sur le tournage, en 2 mois et demi. Une fois parce que c'était pas loin de chez eux, ils sont venus faire coucou. Une fois pour me ramener un papier. Et une fois parce que c'était au Maroc et ils voulaient voir le Maroc. Ils sont venus 2 jours au Maroc, ils ont kiffé. Et ils ont même pas pu venir sur la séquence qui était prévue.
Je suis désolé pour tout ça.
Je te remercie pour tout ça.
Notre histoire a commencé en Iran. Et elle se terminera en France.
À bientôt, à bientôt. Salut les connards!
Je voulais que ça commence de Ibad Petit, qui raconte son histoire, et puis nous présente sa famille, et puis nous présente ses amis en prison, et puis il y a sa femme qui arrive, et puis il y a la famille de sa femme, et puis il y a leurs camarades de lutte, et puis ils fuient, ils arrivent en France, et là il y a les femmes dans la cité, il y a les jeunes de la cité, il y a le maire, etc. Et à la fin, sans dire ce qui se passe à la fin pour le public, mais il y a une galerie, et on m'apprend ce que 15 personnes deviennent. Et pour moi, c'est ça. C'est l'histoire avec un petit H dans l'histoire avec un grand H. Et les personnages secondaires, pour moi, ils sont aussi importants que les personnages principaux. Je voulais pas faire un film sur l'Iran, ni un film sur la démocratie, ni un film sur la banlieue. Je voulais faire un film sur mes parents, sur l'histoire de mes parents. Et pour planter le décor facilement, parce que c'est pas évident, des gens qui disent qui est le chat, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'on est, il fallait très simplement poser le décor. Et je trouvais que c'était un bon moyen de dire, voilà, mon prof, il sait pas où est la Belgique, hop. Ma famille, il y a lui, on est en Iran, on a faim, on est en galère, le peuple veut ça. D'ailleurs, en réalité, le peuple n'a jamais dit, parce que je dis on a faim, le peuple avait faim de liberté, avait faim d'égalité, de solidarité, parce que en vrai, le peuple n'avait pas faim. À l'époque du Shah d'Iran, il n'y avait pas de pauvreté comme il y en a eu en France quand mes parents sont arrivés, par exemple. Donc, mais il fallait tout simplifier pour que n'importe qui puisse entendre le message et comprendre rapidement, ok, le Shah, c'est le méchant, mais c'est un bouffon. Khomeini, c'est le méchant, il est vraiment beaucoup plus dangereux que le premier. Eux, ils veulent partir, eux, c'est les amis. Et puis après, ouais, que tout soit simplifié, mais pas abéti.
Bienvenue au quartier nord de Pierrefitte.
C'est votre centre, c'est à vous tout ça.
Fais rester, j'aimerais que tu fasses de la sensibilisation médicale.
Starfond.
Tu vas pas demander pardon à Dieu à chaque diapo, c'est de la biologie.
Alors Starfondlah la biologie.
Je suis content parce que chaque rôle existe en fait. Quand les gens sortent à la fin, ils me disent putain, le frère qui vole les vêtements, oh là là. Et puis Rachida, Is, oh là là. Et puis la sourde, oh, le maire qui donne des autographes, n'importe quoi. Et puis, il y a 15-20 personnages qui sont identifiés. Et je suis très fier que les personnages secondaires ne servent pas la soupe justement au premier personnage pour nous permettre de briller. Mais que si vous regardez bien, voilà ce que j'ai dit à l'heure, c'est que ça commence comme ça. Et puis à chaque fois, ceux qui sont déjà là servent la soupe aux nouveaux qui arrivent, et ainsi de suite. Donc je suis très content de cette structure, justement, que je trouve honnête.
Pourquoi Ibad est parti en prison?
Il s'est battu.
Papa, je voulais vous dire qu'on va rester en France, finalement.
Faites ce que vous avez à faire. Soyez heureux.
Je vous donne ma méthode de travail pour comment doser, justement, le rire et l'émotion. C'est qu'il y avait 2 fois plus de vannes à l'écrit. Il y avait 2 fois plus de vannes, et après, au montage, j'ai le choix comme ça. Cette scène-là est dramatique, les 2 vannes du milieu, elles viennent tout gâcher, allez, on les zappe. Là, c'est bien qu'on en mette 4, parce qu'on a 4 qui marchent. Là, on en a fait 5, mais il n'y en a que 2 qui marchent. Et le fait d'élaguer comme ça, ça me permet d'avoir le juste milieu pour vraiment passer du rire aux larmes, être sur un fil constamment. Et...
Ce film n'est pas inspiré d'une histoire vraie. C'est une histoire vraie.
« On a l'impression qu'il n'a pas mué, Cairon. Et pourtant, eh bien, c'est le réalisateur de Nous trois ou rien, qui sort ce 4 novembre. Donc, plutôt une réussite, eh bien, malgré ses séquences émotions parsemées de ci, de là. C'est l'occasion de jouer un blind test.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Alors, évidemment, c'est un film français, mais qui prend son... Eh bien, l'histoire commence en Iran. Et donc, eh bien, nous allons jouer avec des films iraniens qu'il va falloir reconnaître. Alors, ils sont nombreux, les réalisateurs iraniens, être respectés pour leur cinéma, entre ceux qui sont restés au pays et ceux qui l'ont quitté. Il y a Kiarostami, Jafar Panahi, et puis il y a Bahman Gobadi, Rafi Pitz, qui eux, en revanche, ont quitté le pays. Nous allons commencer, on va s'en débarrasser avec cet extrait.
Bon, celle-ci a une maîtrise d'anglais, elle peut passer pour ta scénariste. Parfois, ils viennent aussi en repérage, comme ça, ils peuvent bouffer gratos. Ah, lui, c'est ton réel.
On apprend à quelqu'un à être réalisateur en un jour ?
On peut apprendre à un macaque à être réalisateur en un jour. Écoute, si tu te lances là-dedans, lance-toi complètement. Les romaniaques sont des fous furieux, mais ils ont des cousins qui vendent des tapis de prière et des cassettes audio sur la Brea. Tu peux pas créer une couverture autour d'un tournage sans qu'il existe. Il te faut un script, il te faut un producteur.
Je peux pas être producteur ?
Non, t'es un producteur associé, ou mieux. Si tu veux faire une arnaque de Star Wars à 20 millions de dollars, il faut une pointure qui soit une pointure pour soutenir ton projet. Quelqu'un de respectable. Qui a une carrière. À qui tu peux confier des renseignements top secrets. Qui produira un film bidon. Gratos.
Produire un film bidon pour faire une exfiltration. On n'a pas fait ça pour la cocaïne à Saint-Domingue. Mais
et c'est bien, c'est Argo de Ben Affleck. Oui.
Et nous passons à un autre film, cette fois-ci, il est français.
Je me rappelle la première fois où je vous ai entendu jouer. Je me suis dit que je n'avais jamais rien entendu d'aussi beau de toute ma vie. Vraiment, c'était... Rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. Oui, la larme là qui coule, là. Juste là. Vous voyez ?
Oui, je vois, vous pleurez.
Et cette inestimable merveille, je ne vous la vends pas. Je vous la donne. Pour 1000 toumans.
1000 toumans ?
Je l'ai moi-même payé 1049 toumans. J'y ai mis 49 toumans de ma propre poche. Et savez-vous pourquoi je fais ça ? Parce que vous êtes mon ami. Parce que vous êtes vous.
Je n'ai que 700 toumans.
700 toumans, marché conclu. Ça fera l'affaire. Que ne ferais-je pas pour le maître des maîtres ?
Et voilà. Mais ça n'a pas été trouvé.
C'est une comédie, non ?
C'est une comédie, oui.
Je ne vois pas.
Alors j'ai pas mis le plus connu de cette réalisatrice qui est iranienne, qui fait aussi de la bande dessinée. Donc là...
Ah, d'accord. Alors, ça doit être Poulet aux prunes, alors.
Voilà, Poulet aux prunes, d'accord. De Marjane Satrapi. Film de 2011, cette fois-ci. Alors là, c'est un film, pour le coup, qui a été vraiment tourné en Iran. Et on écoute simplement la musique. Alors, on peut pas la laisser en entier, mais voilà, non, c'est pas trouvé. Elle est assez emblématique du film.
J'ai pas dû voir le film. Voilà.
Il s'agit d'un groupe, ça montre le Téhéran Underground. Il s'agit d'un groupe qui veut absolument enregistrer un morceau pour ensuite assister à un festival en Angleterre. Les Chats Persans de Bahman Gobadi. Et puis, ça a été prix spécial du jury Un Certain Regard en 2009. Voilà, film assez exceptionnel. Quatrième extrait.
Je sais pas comment te le dire. Nous ne rentrons pas, nous restons ici.
Quoi ? Mais on partira quand, alors ?
Je vais trouver du travail ici. Dans un hôpital.
Quoi ?
Je veux que nous... Que nous vivions en Iran.
Non. Non.
Il n'y a rien pour moi en Amérique.
Non. Mais qu'est-ce que tu as ? Tu as perdu la tête ? On est américain, ta fille est américaine ! Moody, mon chéri, tu es contrarié à cause de ton travail et tout ça, je le comprends. Mais on va rentrer à la maison et tout ira bien.
Je veux que ma top grandisse dans ce pays.
Non !
Je pense qu'elle doit devenir musulmane.
Non ! Non !
Je pense que j'ai choisi le bon extrait, c'est...
Oui, c'est jamais sans ma fille. Alors, c'est pas un portrait flatteur
De
l'Iran et des musulmans, même. Hein.
C'est sûr. Bon, certains Iraniens, même, qui avaient quitté l'Iran, trouvaient ça un peu réducteur et raciste, pour tout dire. Jamais sans ma fille, 1 400 000 entrées quand même en France. Voilà, film de 91. Dernier extrait.
Tu restes à Paris jusqu'à quand ?
J'ai pas encore fixé ma date de retour, je sais pas.
T'es obligé de venir jusqu'ici ? Tu pouvais pas faire appel à un avocat pour qu'il s'occupe des formalités du divorce ?
Si, mais j'ai préféré venir. J'avais envie de revoir les enfants, et Marianne aussi. Que tout finisse bien.
Alors, deux types qui discutent dans une bagnole avec des essuie-glaces, ça fait un peu français, mais c'est quand même...
Ça fait un peu iranien aussi.
Et aussi, voilà.
C'est le passé.
Oui. Asghar Farhadi, voilà. Film de 2012 et le petit bonus, parce que ça, c'était trop facile.
Stevie Wonder.
Julio Iglesias.
Pink Floyd.
Michael Jackson.
Roger Lev. Werner Ong. Carte à jouer.
Iron Maiden.
Hé, hey, c'est combien pour ça ?
100 Thomas.
50.
60.
50.
60.
50.
50.
C'est... J'ai pas trouvé.
Bah, Persepolis, enfin.
Mais je l'ai pas vu.
Ah bon ? Eh bien, c'est à voir. Ainsi s'achève ce blind test spécial Iran-Iranien.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Dans une chambre d'hôtel de Venise, un quartier malfamé de Los Angeles, une jeune femme, appelée la gamine, se réveille brusquement d'un cauchemar. Elle ouvre une commode et s'empare d'un couteau. Elle sort de sa chambre et erre dans les rues chaudes de Venise. Elle va croiser une galerie de personnages tous plus inquiétants les uns que les autres. Alors dans le genre curiosité improbable, statufié en film culte par quelques trublions du 7e art, Demencia s'impose comme un ovni sorti de nulle part. Le terme de nulle part est, une fois n'est pas coutume, adéquat. Le réalisateur est un illustre inconnu qui ne récidivera pas pour des raisons obscures. La rumeur prétend que John Parker est un pseudo d'un cinéaste célèbre. Alors si Parker existe bel et bien, une autre interprétation vit le jour. Bruno Vezzotta, qui incarne l'homme riche, s'accapara en partie la paternité du film. Il déclara que Parker était un débutant qui ne pouvait mener à bien ce projet démentiel. Alors touche à tout pour Corman, Bruno Vezzotta, qui s'est fait la tête d'Orson Welles pour l'occasion, est aussi l'auteur d'un film noir très curieux, Fumel Jungle, et d'un film d'horreur. Alors de plus, l'année de la réalisation de ce drôle d'objet est incertaine, quelque part entre 53 et 55. Totalement inédit en France, Demencia ne sortit que dans une salle à New York en 58. L'échec fut cinglant et le film introuvable jusqu'à aujourd'hui, malgré quelques tentatives de le ressortir sous différents titres. Alors Demencia fait partie de ces films maudits dès leur conception. La durée insolite de 53 minutes est déjà un signe d'échec programmé. Pour une fois, le terme culte n'est pas galvaudé et colle de près à cette expérience visuelle et sensorielle unique en son genre. Alors, le prologue s'ouvre sur un décor urbain en carton-pâte censé représenter un quartier de New York, un univers factice et exhibé comme pour afficher d'entrée les intentions de l'auteur. Alors à travers une fenêtre, on perçoit une jeune femme en train de dormir, son sommeil est très agité, la caméra avance, franchit un espace et se retrouve dans un espace clos. Ce début rappelle d'ailleurs Psychose d'Hitchcock. Alors, la gamine se réveille brutalement de son cauchemar dans lequel elle est littéralement engloutie par une vague. Armée d'un couteau, elle s'enfonce dans la jungle urbaine peuplée de silhouettes inquiétantes vers une quête étrange et désespérée. Alors, pas de doute pour le spectateur, elle ne s'est pas réveillée. Le premier cauchemar n'était qu'un rêve dans le rêve, une sorte d'avertissement vers quelque chose de plus terrifiant et malsain. Alors, pour donner corps à ce délire hypnotique, les choix artistiques de Parker... Parker ou d'autres, sont aussi singuliers que cohérents. Une succession de plongées et de contre-plongées, des cadrages obliques, déformant l'espace visuel, un montage agressif proche des clips contemporains, une photographie d'inspiration expressionniste, un décor réel et anxiogène filmé comme s'il s'agissait de l'enfer sur Terre. Alors on sort de cette expérience épuisée, un peu à bout de souffle, avalée par un tel sens de la mise en scène. Mais j'allais oublier le principal, le film est entièrement muet, porté à bras-le-corps par la partition habitée de George Antheil, compositeur culte à qui l'on doit la musique du ballet mécanique de Fernand Léger. C'était un film muet du début du XXe siècle. Demencia est vraiment un trip fantasmagorique à la croisée du film noir classique et du chien andalou. Alors Parker associe brillamment violence et sexualité dans son délire pelliculé qui fera à coup sûr quelques émules par la suite. de Lynch à Cronenberg en passant par De Palma. Alors c'est vraiment ce qu'on appelle moi, pour moi un vrai, véritable film cerveau qui explore le psychisme d'un cas pathologique. Alors Demencia se vit un peu comme une expérience assez unique jusqu'à un final vraiment démentiel. Vraiment une chose à découvrir qui est facilement trouvable et à un très bas prix chez un éditeur qui s'appelle Backfilm.
Et d'autant que ça dure que 53 minutes, donc c'est normal que ce soit pas si cher que ça.
Oui, enfin, bon, après la durée, ça peut durer 3 heures. Et puis,
dire et au même prix.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Ainsi s'achève Cinérama. La semaine prochaine, nous pourrons écouter l'équipe du film Les Anarchistes avec notamment Tahar Rahim. Ce sera dans Cinérama.
Et moi, j'irai voir Le Fils de Saul.
À la semaine prochaine avec Marie.
Cinérama. Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.